Ce psaume 21 est extrêmement connu. Aujourd'hui, il l'est surtout parce qu'il fournit l'un des versets que l'on trouve à tort ou à raison sur beaucoup de faire-part de décès. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et on imagine que c'est très bien de dire que Dieu est présent depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Et certainement est-ce vrai. Il y a une autre raison qui en fait ou qui devrait en faire pour des protestants l'un des psaumes les plus connus. C'est que l'un de ces versets a servi pendant des siècles au premier mot du culte protestant dans la liturgie. C'est Calvin qui avait instauré ça dans sa liturgie à Genève. Et cette habitude est restée jusqu'au XIXe siècle où elle a été perdue. Et donc pendant quatre siècles, les premiers mots du culte protestant étaient en fait le verset 2 de ce psaume 121. Ces mots, c'est les suivants. Notre aide vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette profession de foi fondamentale et essentielle était, je ne sais pas pourquoi, considérée comme étant la première affirmation à faire au cours du culte. Notre aide est de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il est vrai qu'il y a là une expression assez extraordinaire, je dirais à la fois d'une confession de foi en Dieu, et c'est peut-être le premier mot à avoir quand on veut rencontrer Dieu, de dire « oui, je reconnais en Dieu celui qui peut nous donner quelque chose ». Et on reconnaît en lui à la fois le Créateur et en même temps aussi celui qui peut nous donner son aide. Et enfin, il y a aussi dans cette simple expression une image assez extraordinaire de la grâce, puisque le verset ne dit pas « Dieu te donnera son aide si tu es fidèle, Dieu te donnera ton aide si tu es sage, si tu es bon, si tu es pieux, si tu as la foi, etc. » Il dit simplement « l'aide est donnée par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est donné sans condition, sans restriction, je dirais, et c'est donc en effet une assez belle formule. Aujourd'hui, nous commençons nos cultes, vous le savez, puisque vous l'avez entendu, par la formule « La grâce et la paix vous sont données » de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est, je crois, une formule qui est tout à fait belle et qui mérite tout à fait d'être présente pour commencer nos offices. Quoi qu'il en soit, ce psaume 121 « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours » est un psaume à juste titre extrêmement apprécié. Son premier verset, souvent oublié, parfois même mis à l'écart, parfois même oublié, enlevé dans certaines traductions, a une importance considérable. Psaume pour monter, ou cantique des degrés. C'est un titre, c'est le titre qui est donné à tous les psaumes, enfin à quelques dizaines de psaumes qui suivent le psaume 119, donc à partir du psaume 120. Cantique des degrés, psaume des montées. En général, on explique que c'étaient les psaumes qui étaient chantés lors des pèlerinages. Vous savez que les Juifs devaient à plusieurs reprises faire des pèlerinages à Jérusalem, et donc ils devaient monter à Jérusalem, comme on dit aujourd'hui que l'on monte à Paris. Donc c'étaient les psaumes que l'on chantait quand on montait à Jérusalem pour aller vers la ville sainte. On dit aussi que c'était les chants, les cantiques qui étaient chantés tout particulièrement lorsque l'on montait vers le temple. Le temple, vous le savez, de Jérusalem était sur une colline, sur le mont Sion, et pour aller au temple, il fallait monter des escaliers assez majestueux dont on voit encore les traces aujourd'hui à Jérusalem. Et c'est donc les cantiques des escaliers, les cantiques que l'on chantait quand on montait solennellement les marches du temple pour se rapprocher du terme ultime du pèlerinage, et donc on dit que c'était ces psaumes de pèlerinage. Si c'est cela, je comprends très bien qu'on puisse passer de cette indication, puisqu'aujourd'hui nous chantons ces cantiques même quand nous ne montons pas de marche, et de toute façon nous n'allons pas à Jérusalem. Mais néanmoins, il ne faut pas, interpréter trop rapidement ce genre d'indication. Parce que ce n'est pas pour rien que le temple avait été mis au sommet d'une montagne. Et ce n'est pas pour rien que l'on disait que l'on montait vers le temple. Parce que monter, c'est aussi une expression spirituelle, bien sûr. Il s'agit de s'élever vers Dieu, de s'élever vers les choses spirituelles, de ne pas rester dans la bassesse de la vie quotidienne, dans la bassesse, je dirais, de l'égoïsme ou des sentiments purement humains, mais de monter un petit peu au-dessus de tout cela pour s'élever à Dieu. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre ce psaume, comme tous les psaumes qui sont aux alentours de celui-là. C'est un psaume pour monter, un psaume pour s'élever à Dieu, un psaume pour découvrir cette dimension spirituelle. C'est donc un psaume essentiel, et tous ces psaumes des montées sont parmi les plus beaux du psautier. C'est vraiment, effectivement, des psaumes qui élèvent l'âme. Alors, comment faire pour s'élever à Dieu? Eh bien, la recette est donnée dans ce qui suit. Je lève les yeux vers les montagnes. Psaume pour monter. Comment faire pour monter à Dieu? Première chose, je lève les yeux. J'aime énormément cette expression pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que c'est très juste. Pour pouvoir s'élever soi-même, la première chose à faire, c'est de savoir où l'on regarde. Le regard est certainement ce qui dirige notre existence. Le regard, c'est ce qui nous oriente et en même temps ce qui nous attire. Fondamentalement, nous finissons par aller là où nous regardons. Ça, c'est vrai spirituellement. C'est vrai aussi dans tous les sports. Pratiquement, quel que soit le sport que vous ayez fait, votre moniteur vous a forcément dit « Regardez loin !» Que ce soit à cheval, où on dit « Il faut regarder au-delà de l'obstacle. Si vous regardez l'obstacle, vous tomberez sur l'obstacle. » Que ce soit à ski, où on vous dit « Il faut regarder à la fin du virage. » Que ce soit à moto, à vélo. Dans tous les sports, on nous explique que finalement, c'est le regard qui magnétise en quelque sorte le mouvement, et que pour réussir un mouvement, il faut regarder loin. Spirituellement, je pense que c'est vrai. Finalement, nous finissons par aller là où nous regardons. Et le regard, eh bien, je crois que c'est finalement rien d'autre que la foi. Le regard, c'est ce en quoi nous croyons. Le regard, c'est ce vers quoi nous tournons notre esprit, notre pensée, notre attention. Et donc la question, elle est bien là, avant même de savoir si vous vous élevez ou si vous ne vous élevez pas vers Dieu, avant même d'être capable d'avoir soi-même, je dirais, une sorte d'élévation spirituelle, la première chose à faire, c'est de lever les yeux. Je lève les yeux et je regarde vers le spirituel, je regarde vers Dieu, je regarde, même si je n'y suis pas encore, vers le pardon, vers la paix, vers la tendresse, vers le service, vers le désintéressement, vers le don de soi, je regarde vers l'amour, je regarde même vers ce Dieu, même s'il me semble loin, c'est là que je regarde. Donc oui, effectivement, première chose à faire, lever les yeux, lever les yeux. Deuxième chose, c'est une question. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Cette question aussi est essentielle, parce qu'en effet, je crois que la deuxième chose qui peut nous permettre de nous élever et de monter vers Dieu, c'est le questionnement. Le questionnement. Quand il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de remise en cause personnelle. Quand il n'y a pas d'ouverture dans son existence, il n'y a aucune chance d'aller ailleurs que là où l'on est. S'il n'y a pas de questionnement dans notre existence, eh bien, nous restons comme nous sommes. Bon, ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais je crois que c'est dommage. Et que justement, la chose la plus merveilleuse dans l'être humain, c'est qu'il peut s'élever, qu'il peut avancer, il peut être en marche. Et cela, nous le reverrons tout à l'heure, puisque c'est évoqué d'une façon très large. Donc oui, la deuxième chose essentielle, vous disais-je, pour s'élever à Dieu, c'est de se poser des questions. D'où me viendra le secours? Voilà la question qui peut nous aider à grandir. Regarder peut-être chaque chose de notre vie et se dire, est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose qui peut me sauver? Ou non? Jusqu'à ce que l'on cherche, effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui peut donner du secours? Où est le secours dans notre vie? La notion de secours n'est pas très simple. En effet, le secours ou le salut, C'est une notion fondamentale dans la foi chrétienne, mais de quoi s'agit-il exactement? Je pense qu'il est bien de s'y attarder un petit peu. D'autant plus que c'est tellement essentiel que, vous le savez, c'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus, Yeshua, en hébreu, ça veut dire le salut, le secours. Ça veut dire Dieu nous sauve. Et on appelle bien Jésus-Christ notre Sauveur. Donc il s'agit bien là, je crois, de la clé de la foi chrétienne, d'essayer de trouver qu'est-ce qui nous sauve. Alors pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, on peut se dire qu'on peut chercher dans sa vie des choses qui nous sauvent. Alors qui nous sauve de quoi? Les réponses peuvent être multiples. Qui nous sauve de la mort? Mais la foi peut-elle nous sauver de la mort? De toute façon, nous mourrons un jour. Alors oui, peut-être, la foi peut-elle nous sauver parce qu'elle nous montre qu'il y a dans notre existence quelque chose qui n'est pas atteint par la mort. Et donc oui, certainement, il y a là quelque chose, une réflexion possible qui consiste à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que la mort n'emportera pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que le vieillissement ne peut pas détruire? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que rien ne peut ôter ou retirer? Et quand on comprend cela, on comprend ce qui peut nous sauver de la mort. Parce que la mort, elle nous embête beaucoup, mais finalement, je crois qu'elle n'enlève que des choses qui nous plaisent, peut-être, plus ou moins, suivant les gens, mais qui ne sont pas, et de toute façon, nécessairement essentielles, ou en tout cas, qui sont provisoires. Donc oui, certainement, la foi peut nous sauver de la mort en tant qu'elle nous montre ce qu'il y a d'essentiel, d'important, d'éternel, d'impérissable, d'ultime et d'absolu dans notre existence. Et justement, il faut tourner son regard vers cela. C'est tout un travail, mais tourner son regard vers ce que le temps ne détruit pas. On peut dire aussi que notre foi nous sauve, si ce n'est de la mort, au moins de la crainte de la mort. En effet, je n'ai plus peur, puisque je sais qu'il y a quelque chose qui m'accroche à l'éternité, ou parce que je sais que ma vie compte pour autre chose que ce que la mort emportera. Ou alors on peut dire encore que la foi ou que Dieu, le Christ, l'Évangile, nous sauve, ça c'est plus à la mode, plus moderne, nous sauve de l'absurde. Oui, j'ai l'impression que ma vie est perdue, elle perd parce que ma vie devient n'importe quoi, une sorte de, je dirais, d'agitation désordonnée qui perd tout son sens, une sorte de mouvement biologique absurde. Donc oui, qu'est-ce qui me sauvera de l'absurdité de l'existence? Qu'est-ce qui me sauvera du non-sens de ma vie? Et là encore, c'est une bonne question, de se dire qu'est-ce qui dans ma vie fait sens? Qu'est-ce qui dans ma vie peut donner une utilité, un rôle, une teneur, je dirais, à mon existence? Et qu'est-ce qui peut lui donner un sens qui le libère de l'absurde? Ça aussi, c'est une bonne question. Ou on peut continuer à décliner, mais je ne le ferai pas parce que je pense qu'à partir d'un certain niveau, c'est à chacun de savoir de quoi il a besoin d'être sauvé. Ce dont nous avons besoin d'être sauvés, c'est peut-être aussi de la tristesse, peut-être du deuil, peut-être du désespoir, peut-être de la haine, peut-être du manque d'espérance, peut-être je ne sais quoi. Enfin bref, nous avons besoin de secours. Peut-être effectivement qu'une chose essentielle de l'existence pour avancer, c'est de cesser de prétendre être autosuffisant et de savoir que l'on peut être aidé. C'est quelque chose de très vrai, ça. Non seulement dans le domaine purement humain, quand quelqu'un qui a des difficultés à vivre, je dirais purement existentiel, pas spirituel, je dirais, mais quelqu'un qui souffre, je dirais, de dépression ou de vraiment d'une souffrance psychique, admet enfin qu'il a besoin d'être aidé. Quand quelqu'un enfin accepte d'aller voir quelqu'un qui pourra l'aider, je dirais un psychanalyste, un psychothérapeute ou quelqu'un de compétent, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, mais enfin quand quelqu'un accepte d'être aidé, c'est déjà un point de départ extraordinaire. Dans notre domaine spirituel, il en est de même. Trop souvent, nous avons tendance à penser que finalement, nous n'avons besoin de l'aide de personne, ni des autres, ni d'un pasteur, ni de l'Église, ni de la théologie, ni même de Dieu. Je me débrouille. On peut toujours se débrouiller. Mais je crois que c'est une grande chose, parce que c'est une démarche d'humilité peut-être et d'intelligence, que de reconnaître que le secours, je ne le trouverai pas nécessairement au fond de moi-même, mais que j'ai besoin de le recevoir. C'est-à-dire se mettre en position non seulement de se questionner soi-même, de se remettre en cause, mais aussi de s'ouvrir à la possibilité de recevoir de l'aide de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une démarche absolument extraordinaire. Donc oui, effectivement, d'où me viendra le secours ? Le fait de se poser des questions est le point le plus fondamental, le plus vital, le plus essentiel à toute démarche spirituelle. Et c'est là, je crois, une grande trouvaille de la pensée juive. Aujourd'hui, la plupart des religions, ou en tout cas toutes les sectes, fonctionnent à l'envers. Et elles disent à leurs fidèles, si vous voulez vous sauver, vous n'avez qu'à adhérer à nos réponses. Vous n'avez qu'à croire ce que je vous dis, faire ce que je vous enseigne. Eh bien, là, justement, la piété juive dit le contraire. Elle ne nous bombarde pas de réponses, elle dit simplement, ce qui peut nous sauver, c'est de nous poser les bonnes questions. À partir de là, on peut toujours épiloguer. Je lève les yeux vers les montagnes et de savoir que représentent ces montagnes. Là, il y a beaucoup de réponses possibles. Certains disent, je lève les yeux vers les montagnes, ben la montagne, c'est la montagne qui m'obnubile quand j'arrive vers Jérusalem, c'est la montagne de Sion, c'est-à-dire que je lève les yeux vers les lieux mêmes de la révélation divine, je lève les yeux vers la Bible, vers la prédication, vers la parole, vers l'évangile, vers l'Église, je lève les yeux vers justement les lieux mêmes où Dieu peut se révéler. Et c'est en regardant ces lieux de révélation, et en me questionnant sur ce dont j'ai besoin, que peut-être je trouverai une réponse à ma propre question. D'autres disent, mais non, ça n'est pas cela, la montagne, les montagnes, ce sont parfois, au contraire, les montagnes, je dirais, des obstacles de ma vie. Comme le dit, vous savez, dans Ésaïe, que toute montagne soit abaissée, que toute colline soit érasée, préparez un chemin pour le nom du Seigneur. Donc parfois ce sont des montagnes négatives, des montagnes d'égoïsme, des montagnes de sottise, des montagnes d'angoisse, des montagnes d'épreuve, des montagnes de deuil, de maladie, qui sont devant moi, qui font obstacle, je dirais. Ces montagnes qui me font de l'ombre, moi qui suis là, qui aspire à la lumière et au soleil, il y a ces montagnes autour de moi qui me font prisonnier. Et certains disent que ces montagnes, ce sont celles-là. Je lève les yeux vers les montagnes, donc je regarde ces obstacles qui sont autour de moi. Et je dis, qui me sauvera de ces montagnes ? Eh bien, c'est l'Éternel qui, comme le dit le Cantique des Cantiques, bondit au-dessus des montagnes de la séparation. Il est comme une biche, comme un faon, comme une gazelle qui saute par-dessus tout cela. Mais peut-être là aussi, faut-il regarder, prendre conscience de ces montagnes qui nous obscurcissent, comprendre, voir en face ces obstacles, ces choses qui nous privent de la lumière, de la paix, de l'espérance, de la tranquillité, pour trouver le passage que Dieu peut nous offrir. C'est peut-être vrai aussi, n'est-ce pas ? Ou d'autres disent encore, je lève les yeux vers les montagnes, mais alors ce sont les montagnes des... je dirais, des fausses espérances. Les montagnes sur lesquelles, autrefois, les idolâtres construisaient des autels pour adorer les dieux Baal, les autres, et autres. Et donc, je lève les yeux vers toutes ces croyances fausses que j'ai dans ma vie, toutes ces espérances déplacées auxquelles je m'attache. Je lève les yeux vers tout cela et je dis, y aura-t-il le moindre secours qui me viendra de là ? Point d'interrogation, réponse, non. Je lève les yeux vers ces montagnes. Le secours me viendra-t-il de là ? Non, certainement pas. Et j'en conclus, le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Alors, quelle est la bonne solution ? Ben écoutez, je n'en sais rien. Mais je crois qu'il n'y a pas à choisir et il n'y a pas une bonne solution. Toutes ces solutions sont bonnes. Ce qu'il faut, une fois de plus, c'est lever les yeux et regarder vers toutes les montagnes, bonnes et mauvaises, qui nous entourent. Mais à un moment donné, lever les yeux et regarder un peu plus loin que le bout de ses chaussures. C'est le seul moyen de trouver une issue. Donc oui, je lève les yeux vers les montagnes, vers les bonnes, vers les mauvaises, vers les montagnes de la révélation où je vais grappiller une parole, vers les montagnes de mon idiotie, de mon égoïsme, de mon manque de piété. Et là aussi, je vais comprendre quelque chose, vers les montagnes de mes attachements idolâtres et pervers. Et là aussi, je vais comprendre quelque chose. Et c'est dans tout cela, lorsque je regarderai un peu au-delà de moi-même, que je vais me dire d'où me vient le secours. Et là, je vais comprendre une chose. Je vais comprendre que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Là, cette réponse est belle et effectivement, ce verset mérite une place unique. Et pourtant, nos traducteurs, là encore une fois, nous mentent et nous trahissent le texte. Le secours vient de l'Éternel, nous dit-on, qui a fait les cieux et la terre. C'est étonnant parce que le texte ne dit pas cela. Le texte a le verbe au présent, au participe présent. Le secours me vient de l'Éternel qui est en train de faire les cieux et la terre. À l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Pas qui a fait une fois pour toutes, comme s'il y avait un Dieu qui, une fois pour toutes, avait démontré sa puissance et qui maintenant, d'une certaine façon, dormait un peu. On n'est pas dans le déisme voltairien, si vous voulez, hein, avec le grand horloger qui fabrique l'horloge et qui puis après regarde les choses se faire toutes seules. Mais au contraire, la foi biblique, c'est la foi dans un Dieu qui continue indéfiniment de créer, dans un Dieu qui agit. Et peut-être que c'est comme ça que Dieu nous sauve. C'est qu'aujourd'hui, Dieu peut créer en nous un être neuf. Dieu peut nous réparer, nous remettre en marche. Dieu peut nous redonner l'espérance, Dieu peut nous transformer, il peut faire de nous des êtres neufs, il peut nous recréer. Dieu est un Dieu à l'œuvre. S'il y a du mal, s'il y a de la souffrance sur la terre, c'est que Dieu n'a pas encore tout fini, dirais-je. On est dans une création en cours de route, dans une création inachevée, dans une création où il y a encore du mal, mais je crois qu'il y a un Dieu qui aujourd'hui est encore un Dieu qui crée. Et comme il a créé le ciel et la terre, comme il est encore en train de créer le monde, Dieu est une puissance qui en moi peut créer beaucoup de choses. Donc oui, je crois qu'il y a à portée de ma main une puissance créatrice extraordinaire. Je crois qu'il y a à portée de mon âme, de mon esprit, de ma pensée, de mon intelligence, de ma prière, une puissance extraordinaire qui peut me transformer de l'intérieur, qui peut me revitaliser, une puissance qui peut me guérir intérieurement, une puissance qui peut me ressusciter, une puissance qui peut me donner la vie. C'est ça, cette foi extraordinaire, effectivement, de ce Dieu qui donne, je dirais, qui donne la vie parce qu'il est une puissance créatrice, encore aujourd'hui à l'œuvre dans notre existence. Le reste du psaume 121 est plus simple, je dirais. Il nous montre simplement tout ce catalogue extraordinaire des bienfaits de Dieu. Ces bienfaits de Dieu que l'on peut apprendre à découvrir petit à petit et que l'on peut, effectivement, dont on peut faire la base et le fondement de sa foi. Ces affirmations merveilleuses dans lesquelles on peut progresser et avancer lorsque l'on repasse indéfiniment par ces deux premiers versets qui sont ce questionnement et cette affirmation que l'Éternel est celui qui nous secourt et c'est celui qui est en train de créer le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, nous dit le psaume. Ça, c'est assez extraordinaire, puisque effectivement, vous voyez que l'on est dans la dynamique. Quand on dit « ne permettra pas que ton pied chancelle », c'est bien parce que l'on est dans la marche, on est en train d'avancer. Et justement, il s'agit de cela, être en marche, être dans un mouvement, être dans une avancée, être dans une dynamique. On est dans un psaume, je vous disais, de pèlerinage. Chose essentielle, aujourd'hui, peu importe que vous fassiez des pèlerinages en Terre Sainte, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou ailleurs, l'important c'est d'être en marche dans votre existence, d'être en route, de ne pas être aujourd'hui comme vous étiez hier, et de se dire « aujourd'hui est différent d'hier et demain sera différent d'aujourd'hui ». Et donc notre vie est fondamentalement, je dirais, inconsistance, enfin quelque chose qui ne demeure pas, mais qui est sans arrêt en marche. Alors l'aide que peut nous aider, que peut nous donner Dieu, c'est justement d'être en marche. L'aide de Dieu, ce n'est pas une sorte de secours agréable qui nous donnerait une sorte de carapace, je dirais, pour que l'on reste indéfiniment là où nous sommes et que nous puissions ne pas souffrir. L'aide de Dieu, ce n'est pas non plus, je dirais, du Prozac ou du Valium qui nous permet de tout voir en rose et de ne pas avoir de soucis. Dieu n'est pas une morphine, mais Dieu, c'est celui qui nous met en mouvement, qui nous permet d'avancer et qui permet que notre marche aille dans le bon sens et que nous ne tombions pas dans notre marche. Dieu nous dit, il ne permet pas que ton pied chancelle, mais c'est quand même nous qui avançons les pieds. Donc voilà l'aide de Dieu, cette espèce de synergie dans l'avancée, à partir du moment où nous voulons avancer, Dieu nous aide à être en marche. Vous le savez, je le dis souvent, que le mot « heureux » dans la Bible vient du verbe « achar » qui veut dire « être debout et en marche ». C'est ça le bonheur, c'est d'être en marche. Il ne sommeille pas celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort le gardien d'Israël. Il y a là encore deux découvertes fondamentales à faire dans la foi. La première, c'est que Dieu ne dort pas. Pourquoi nous dit-on cela, tiens, à propos? Eh bien, je vais vous dire, parce que nous avons souvent l'impression que Dieu dort. Nous avons l'impression qu'il n'est pas là, qu'il est loin, qu'il ne nous entend pas, ou certainement, n'est-ce pas lui qui dort, c'est notre foi qui est en sommeil. Il y a là une affirmation fondamentale, c'est que lui, il ne sommeille ni ne dort. Dieu, il est toujours là. Parfois, nous sommes endormis, mais quand nous nous réveillons, Dieu est là, et lui ne s'est pas endormi. Affirmation merveilleuse, je crois. J'ai rencontré l'autre jour quelqu'un qui n'était pas venu à l'église depuis longtemps, et qui m'a dit, ce qui m'a permis de revenir, c'était de savoir que je pouvais revenir sans être jugé, d'une certaine manière. Parce que j'avais dit à cette personne qu'il pouvait y avoir des hauts et des bas dans la vie spirituelle et qu'il n'y avait pas à s'en offusquer, c'est comme ça, c'est naturel, c'est normal, mais que toujours on est content de recevoir. C'est vrai dans l'Église et c'est vrai en Dieu. Même si nous, nous nous endormons, Dieu, lui, jamais ne dort. Et puis, il est celui qui te garde. Il est ton gardien. On passe là à une foi d'un autre ordre, qui est la foi personnelle. Ça n'est pas évident. On peut croire que Dieu est celui qui donne le sens de la vie, que Dieu est l'amour, le pardon, l'éternité. On peut croire que Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais ce qui est magnifique, et ça il faut parfois du temps pour le découvrir, c'est de découvrir que l'Éternel est celui qui te garde. Il a fait le ciel et la terre, mais il te garde toi. Découvrir ce Dieu personnel, ce Dieu qui me garde moi. Oui, il y a une éternité d'être humain, mais en même temps, Dieu est aussi mon Dieu. Ce Dieu de la relation personnelle, ce Dieu intime, ce Dieu de la prière, ce Dieu qui est comme si j'étais son seul enfant, ce Dieu qui m'aime moi, ce Dieu qui est mon Dieu et je suis son enfant. Et découvrir cette relation personnelle, c'est une chose extraordinaire. Et il faut peut-être un certain temps dans cette quête de Dieu pour découvrir que ce Dieu cosmique, ce Dieu d'une nuée de témoins, ce Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais que ce Dieu, il est mon Dieu et qu'il m'aime personnellement. Ce Dieu-là, on nous dit qu'il gardera de tout mal, qu'il est comme notre ombre à la main droite, qu'il nous permet pas que le soleil ne nous frappe, ni la lune pendant la nuit. C'est-à-dire qu'on soit dans l'épreuve de la nuit. L'épreuve est là et la nuit est là, mais il permet que la lune, l'astre de la nuit, ne nous abatte pas. Et même dans le jour, le soleil ne te brûlera pas. Oui, là aussi, danger pour nous de nous laisser brûler par nos succès, par nos joies terrestres, par nos réussites. Et là aussi, il y a un danger. Mais dans tout cela, Dieu permet de relativiser et de faire en sorte que dans la foi comme dans le doute, dans la réussite comme dans l'échec, dans la joie comme dans la peine, eh bien, ce mal, tout en étant présent, d'une certaine manière, nous en soyons protégés par la présence même de Dieu. L'Éternel, nous dit-on, et ça c'est vrai que c'est un beau passage, l'Éternel garde ton chemin, il garde ton départ et ton arrivée. L'Éternel est là, présent, du début à la fin, de notre naissance à notre mort. Oui, bien sûr, c'est vrai. L'Éternel nous garde, que nous soyons au départ de notre vie spirituelle, dans ce début d'une quête de quelque chose que nous ne comprenons pas très bien, déjà Dieu est là. Ou que ce soit à l'arrivée, que nous soyons un champion de la foi, déjà Dieu, encore plutôt, Dieu est là. Dieu est présent en toutes choses, et Dieu n'est pas plus présent dans celui qui a une très grande foi que pour celui qui est débutant. Dieu n'est pas plus présent pour celui qui a 6 mois que pour celui qui en a 90 ans. Dieu est présent de la même manière pour chacun et dans la vie de chacun. Et cela, nous dit le psaume, dès maintenant et pour l'éternité. Que ce soit pour l'éternité, nul n'en doute, mais le dès maintenant, le dès à présent est extraordinaire. Oui, cette présence de Dieu, voyez-vous, ça n'est pas qu'une promesse, c'est dès maintenant qu'elle se joue. Le royaume de Dieu n'est pas une chose pour plus tard, ce n'est pas une consolation, une joie pour plus tard, c'est dès aujourd'hui. Et celui qui est dans la quête, dans la recherche de Dieu, celui qui marche dans sa vie pour s'avancer et pour monter vers Dieu, eh bien, dès à présent, Dieu lui donne, je dirais, du secours, lui donne de la lumière dont il a besoin, ou l'ombre qu'il lui faut si le soleil est brûlant. La vie éternelle, c'est quelque chose qui commence dès aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que cette dimension de relation à Dieu, cette vie éternelle qui est en nous, elle n'est pas atteinte par la mort et elle n'est pas limitée. Et si nous avons quelque éternité, c'est dans notre relation à Dieu, c'est en tant que nous savons comprendre, accepter, recevoir cette présence de Dieu qui nous est offerte par grâce. Tout cela, c'est effectivement s'élever à Dieu. S'élever, rechercher, tourner les regards vers le haut. Et c'est dans cela que nous avons la vie éternelle, que nous avons toutes ces promesses extraordinaires, je dirais, du psaume, qui sont la grâce et la paix, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.